vie en nomade. Le direct.
C'est dans la douce ombre des arbres que les âmes errantes viennent reposer leurs murmures. Ici, la psychiatrie n'est pas un mur, mais un pont. Un lieu où l'on écoute ce qui se dit pas. Grâce à notre magicien de la technique, Julien, que nous saluons. Bonjour Julien. Il nous fait vivre la lumière qui filtre à travers les feuilles et qui éclaire les zones les plus fragiles de l'esprit. Et doucement, invite à respirer à nouveau. Et c'est par cette inspiration que nous vous souhaitons la bienvenue sur Pavillon Nomade. Aujourd'hui au programme, nous allons faire connaissance de deux artistes, François Keller, cinéaste suisse, et Robin Lauretan, qui est également en service civil chez nous au quartier culturel. Avec nous aujourd'hui, nous avons donc Robin, nous avons Pius, nous avons Hugo, Isabelle, nous avons Denis, François, Mathéo, Eliane... et votre serviteur Elvio. Je vous souhaite la bienvenue et nous allons commencer à faire connaissance avec vous, François Keller. Donc bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Mais c'est avec un grand plaisir. Donc vous êtes né à Couvet dans le canton de Neuchâtel, Val de Travers si je ne me trompe. Vous obtenez une licence en droit à l'université de Neuchâtel. Vous êtes un cinéaste roman polyvalent, auteur, réalisateur, producteur, qui après vos études de droit à Neuchâtel et en cinéma à l'INSAS, je ne sais pas si je dis juste...
INSAS,
voilà. Vous avez signé depuis la fin des années 80 une filmographie marquée par un intérêt profond sur les sujets sociaux, humains, justice, restaurative. Voilà, vieillissement, méditation. Ces films interrogent avec sensibilité des réalités contemporaines difficiles ou inspirantes. J'aimerais vous poser une question. D'abord, vous avez étudié le droit, mais qu'est-ce qui vous a amené au cinéma ?
Moi, je trouvais que c'était un peu chiant le droit, en fait, à la fin. j'ai terminé le droit. Mm-hmm. Et puis il y avait l'idée, j'avais lu une fois qu'il y avait le port du costume obligatoire dans le prétoire, et ça je trouvais insupportable, cette idée quoi. Et puis bon, c'est vrai que j'ai réalisé aussi que j'avais besoin de plus d'espace, et puis j'avais toujours envie de raconter des histoires. Donc voilà, c'était utile, ça m'a servi beaucoup, parce que dans le cinéma on a beaucoup de choses à faire avec le droit aussi. Okay. Il y a des contrats, il y a les droits d'auteur, les contrats avec des télévisions, des chaînes, enfin il y a constamment le droit est toujours là, donc c'est très utile en fait.
Il y a aussi le droit au niveau de la diffusion, puis aussi par exemple je vois avec Pavillon Nomade demander aux personnes si elles sont ok en fait d'être diffusées.
Ben exactement, le droit de la personnalité. Okay, ouais. Nous on a développé, moi j'ai toujours fait des films dans le domaine de l'intime. Mm-hmm. Donc sur la transformation humaine en fait, et donc par exemple j'ai fait deux films sur vous n'avez pas cité, sur la masculinité, l'identité masculine. Mm-hmm. Et les hommes se mettent dans le désert à poil, et donc on a développé des contrats. Un contrat qui a même fait l'objet d'une thèse dans l'université qui donnait pour la protection de la personnalité des gens, quoi. C'est-à-dire donner la possibilité à quelqu'un de renoncer à ce que je propose, ou bien sur le moment, ou bien dans les 4-5 semaines qui suivent le tournage, par exemple. Donc ça, c'est un problème juridique, c'est une question juridique qui est intéressante entre la liberté artistique et puis la protection de la personnalité. Il faut trouver une balance entre les deux. Parce que moi, je ne peux pas faire un long métrage où il y a une victime qui vient, une personne, là, c'était victime et détenue, vous parliez, mais une personne protagoniste qui vient, qui me dit, moi, j'aurais mieux voulu être tourné quand tu montes la joue gauche que la droite. Ça, ce n'est pas possible, quoi. Par contre, qu'il y ait des choses qui regrettent et qui puissent l'exprimer, d'avoir dit, ça, c'est la moindre des choses humainement, de pouvoir lui proposer ça.
Donc là, vous parlez du souffle du désert, c'est ça?
Là, je citais le souffle du désert. Oui. C'est un film sur l'identité masculine qu'on a tourné dans le désert.
Et vous avez gardé des liens avec les participants. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé vraiment lors du tournage de ce film?
Bon, c'est toujours un grand investissement. Puis je fais quand même 2 ou 3 ans pour chacun. J'ai fait 7 longs métrages. C'est des films qui sont montrés dans différents pays, sont coproduits, sont avec, par exemple, Arte. Mmh. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis, ça demande... Je ne sors pas indemne, moi, je sors grandi, en fait. Mmh. Je ne dis pas que c'est ma thérapie, ce n'est pas du tout ça. Mais disons que ça me permet de voir le monde différemment à chaque... Donc, j'ai fait des choses qui m'intéressent. C'est ça, ma grande liberté. Pour ça, je me sens vraiment privilégié, quoi. Et donc, c'est pour ça, par exemple, c'était un film sur l'identité masculine qui montrait différentes facettes de la masculinité, le rapport à la mère, au corps aussi, bon, au sexe, à l'argent, je ne sais pas. Et puis, j'avais réalisé, c'est pour ça que j'en ai fait un deuxième qui s'appelle « Cher monsieur, cher papa », que c'est l'absence du père, c'est le rapport au père qui est un des principaux problèmes des jeunes adultes, des jeunes hommes. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un autre film avec 4 ou 5 jeunes qui retrouvent leur père ou qui ne l'ont pas connu et qui s'appelle « Cher monsieur, cher papa ». Il écrit à son papa, il ne sait pas qu'il ne l'a jamais vu, il a 21 ans et il se dit « Est-ce que je vais écrire monsieur ou papa ?»
Vous avez aussi fait « Golden Senior », donc qui s'intéresse au vieillissement et à la méditation. Comment est-ce que vous avez construit la narration autour des personnages?
Bon, ça, c'est un film. Chaque personnage, chaque film, il a une histoire, en fait. Mm-hmm. Et puis là, c'est un film... en fait, j'ai tourné sur pas mal d'années. Donc, j'en ai fait un autre entre-temps, qui était en fait une étude européenne. Ça s'appelle Horizon 2020. C'est le fonds de recherche de l'Union européenne qui étudiait l'impact de la méditation sur le bien-être et la santé des seniors. Donc, c'était des gens qui avaient minimum, je crois, 60. Mm-hmm. Et puis, je trouve intéressant, parce que c'est des gens qui n'avaient jamais fait, par définition. Il y avait aussi l'apprentissage de l'anglais. Il y a soit un groupe qui faisait de l'anglais, avec la même dose d'investissement, soit la méditation, soit il y a toujours un groupe contrôle qui ne fait rien dans les études, qui est un groupe de référence, quoi. Et donc, je suis tombé là-dessus, je trouve hyper intéressant. Parce qu'il y a des choses qui évoluaient dans le temps, donc ça m'intéresse, quoi.
Tout à fait, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, donc on est au courant, et je pense que aussi par rapport à la société, donc il y a aussi des choses qu'elles doivent réapprendre à vivre. En fait, est-ce que vous touchez aussi à ce genre de sujet là? Les différentes générations.
J'ai essayé de voir, c'est comment les autres aussi autour d'eux prenaient ça. Donc, écoute, à la grand-maman qui apprend la méditation, elle tombe d'où, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je trouvais assez marrant, il y avait une espèce d'innocence, quoi. Et puis, se battait pour ça. Il y en a celle qui est la plus énervée parce qu'elle est tombée, parce qu'elle s'est tirée au sort, ça s'appelle randomisation. Et donc, elle tombe malheureusement dans le groupe méditation. Moi, je me disais, mais c'est pas la chance qu'elle a, parce qu'il y avait des profs qui étaient différents horizons, qui étaient très, très bons. Mm-hmm. Et puis, elle dit, non, moi, je veux faire l'anglais plutôt, je veux apprendre les sous-titres, lire les sous-titres en anglais et tout. Puis, à la fin, c'est elle qui est le plus bliss, ou je sais pas comment on dit, éveillée, ou elle a l'air vraiment complètement épanouie. Et donc, même sans s'en rendre compte. Donc, ça, c'est assez touchant, ouais, c'est bien. Donc, pour répondre à votre question, c'est sur les personnages, en fait, que le film s'est monté. Je voulais faire un 52 minutes pour la TV. Mmh. Et tout d'un coup, il y avait des caractères qui étaient vraiment beaux, forts, et puis qui étaient très différenciés. Il y a au départ 3 hommes, 3 femmes. Donc, des fois, ça arrive, je fais des contrats avec eux pour reprendre le droit. Mmh. Et je dis, je ne suis pas sûr que je pourrais vous garder dans le produit final. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, on a 100 heures de rush. Alors là, il y a quelqu'un que j'ai dû dire, un homme, qu'on devait renoncer à lui. C'est mieux, à un moment donné, de laisser tomber un caractère que de vouloir un peu diminuer tout, y compris les meilleurs. Donc, il y a un truc organique qui se développe. C'est quand même, même si c'est assez narratif, c'est quand même assez proche c'est la réalité quand même de leur vie. Et donc, si vous voulez, la vie, elle montre des chemins différents. Alors, moi, je vis avec ça, puis j'essaie d'adapter en fonction de ce qui se passe, est-ce que je vois, est-ce que je suis aussi proche d'eux, hein, évidemment. À la fin, je deviens un peu partie de la si ce n'est de la famille, mais j'ai pas les clés de leur maison, mais disons, je suis proche, quoi. Hein.
Donc, vous tournez souvent en individuel, en fait, où vous avez quand même parfois des images en groupe ou.
Ah ben nous, on a une équipe. Hein. Moi, j'ai une équipe technique, quoi. Moi, je ne tourne pas.
Mais je parlais des acteurs.
Alors, ça dépend. Par exemple, Le souffle du désert, dont on parlait, c'était 12 hommes.
Oui.
Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un film choral. Donc, c'est compliqué. Après, ben, justement, c'était tourné à deux caméras, avec deux très, très bons chefs-op, sur 2 semaines et demie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que normalement, on prend 35 à 40 jours pour un long métrage de cinéma, de documentaire cinéma. Donc, là, c'est sur 2 semaines et demie. Il ne faut pas se rater. C'est assez contraignant parce qu'on est en plein désert. Après, on a dû tout changer parce que le bivouac, il nous prenait tellement de temps. Il y a des fois, on ne pouvait pas tourner, se poser le soir, puis tourner le lendemain matin, quoi. Mmh. On aurait pu y penser avant. On a laissé des zones tampons, mais pas assez. Donc là, ça change tout le temps. Donc, il faut être souple, quoi. Il faut être fluide. Il faut être prêt à être assez fluide dans ce métier.
J'imagine. Eliane ?
Oui, François, j'ai une question à vous poser. Vous faites énormément de choses. Et dans vos domaines d'activité, est-ce que vous donnez des cours ?
Oui, j'ai enseigné à l'école d'art, là, mais il y a longtemps. Et puis maintenant, je fais moins. Mais j'ai fait pas mal de monter des séminaires, mais y compris d'ailleurs sur le droit, les questions de la personnalité, le droit de la personnalité, ça m'intéresse assez. Mais là, je fais plus. Je fais des choses un petit peu comme ça, one again, plutôt bénévole ou comme ça. Mais j'ai pas. C'est quand même le fait d'écrire, ça demande beaucoup quoi, de temps. Bon, il y a des gens qui font de l'écriture là. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Ça prend. Donc, disons que je me concentre vraiment maintenant. J'ai la chance pour me concentrer sur ce que j'aime. L'enseignement, ça ne veut pas dire que je n'aimais pas. Mais c'est quand même autre chose. Ce que je fais par contre, c'est que je suis dans la commission pour donner l'argent au niveau de la Confédération. Et ça, c'est très important. Ça demande beaucoup d'investissement parce que voilà, c'est pas anodin quoi. Il faut vraiment beaucoup travailler. Et ça, bon, c'est vrai que c'est aussi intéressant parce qu'on voit ce qui se passe. Et ça demande une grande responsabilité quoi.
Eliane ?
Je voulais juste dire merci.
Ben merci beaucoup. Hein.
Et une question par rapport à comment choisissez-vous vos sujets ? Et une question qui peut être un peu complémentaire, participez-vous au scénario ?
Oui, alors justement, vous disiez, je suis auteur, donc moi j'écris. Mais pour les projets un peu plus complexes, comme celui que je viens de tourner au Népal, là, depuis 2-3 ans, là, j'ai un scénariste. Donc, c'est un plus gros projet, vraiment plus grand. Et puis, je travaille avec... mais c'est moi qui écris. Donc, j'ai écrit les dossiers. Lui, il relit. Il écrit mieux que moi. Il est connu. Il est dramaturge aussi. Et donc, je m'entends bien avec lui. Et... voilà, donc je suis auteur, ouais, et puis réalisateur, bon, et puis producteur, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est j'aime pas ce terme, c'est un peu business model, une façon, disons, de gérer l'aspect économique qui est important dans le cinéma, hein, on est toujours entre l'art et l'industrie, quoi, c'est de produire, moi, l'écriture. C'est-à-dire, j'ai une SARL, mais c'est une petite boîte, petite entreprise, c'est assumé, ce que je faisais pas avant, je faisais des trucs, tout, un peu, mais... Et donc, j'ai la chance d'être assez connu pour que les gens, je puisse aller vers des grosses boîtes. Et puis, eux, évidemment, que je ramène un dossier clé en main. Donc, moi, je trouve l'argent pour développer l'écriture. Ça peut être pas mal quand même. Hein, uniquement pour le développement, on est quand même 150 000 francs pour le film au Népal quand même. Hein, uniquement pour le développement. Mais ça veut dire qu'on a fait 3 voyages, qu'on a tourné une partie... donc je paye un chef-op qui vient avec moi là-bas, etc. Hein. Et puis le son, c'est moi qui ai fait, parce qu'à ce stade, c'est quand même trop un luxe d'avoir plusieurs salaires. Mais voilà, donc c'est un peu le système. C'est pour ça que je me dis producteur. En fait, je suis coproducteur. Donc je deviens minoritaire du film que j'ai moi-même lancer. Mais je trouve que c'est des boulots très différenciés. C'est très différent, en fait. Mmh. Lui, pendant que je vous parle, il est peut-être à un festival à Locarno, en train de défendre la sortie de l'année prochaine et tout. Donc, elle, en fait, c'est une femme. Donc, voilà, c'est quand même deux boulots. La question de chercher l'argent, mais aussi la représentation hein, dans des festivals et tout. C'est un travail complexe, quoi, le travail de producteur. Et c'est un peu compliqué de tout faire. Il y en a qui font tout. Mais moi, j'ai arrêté avec ça depuis longtemps.
Eliane, vous avez une question.
Oui, voyagez-vous beaucoup?
Oui, alors je voyage beaucoup parce que déjà, les films, j'en ai fait un au Bhoutan. Le premier, c'était au Bhoutan. Après, il y avait dans le désert. Après, le chemin cherche papa. Bon, là, c'était en Suisse. Là, c'était au Népal. Enfin, voilà. J'en ai fait un, oui, sur la justice restaurative, dont vous évoquiez. Mm-hmm. On se vous voit, hein, je pense. c'était en Belgique. Alors là, c'est un peu galère. Des fois, c'est galérant parce que, par exemple, c'est quelque chose qui, c'est les rencontres des détenus et des victimes. Hein. Donc, c'est très fort. Ça part sur le principe de l'humanisation de la justice. Parce que ça veut dire les gens sont capables de résoudre les aspects personnels de leur conflit. Au moins, c'est donner confiance aux gens. Donc, c'est hyper important, quoi, pour moi, en tout cas. Au point que je continue de m'investir là-dedans. Vous pouvez regarder Ajures, je ne sais pas faire la pub, mais ajures.ch, c'est en fait des programmes de rencontres détenues victimes en Suisse romande, quoi. Et donc, voilà. Mais pour dire, là, c'était compliqué parce que comme c'est tout à fait le début, y a eu un conseiller d'État au moment où tout était vert, j'avais trouvé l'argent, qui a pété les plombs, qui a dit non, on ne peut pas faire dans cette prison. Moi, j'avais déjà fait 6 mois, j'avais même fait des séminaires parce qu'il faut entrer dans la matière. Mmh. Donc, j'avais fait un séminaire gratuit, bénévole avec les détenus de jeux devant la caméra qui était fort. Enfin, j'avais des bons liens avec eux, avec plusieurs. Et puis après, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, tout d'un coup, on ne sait plus trop quoi faire. Puis on est parti en Belgique qui avait une longueur d'avance sur la Suisse à ce niveau-là. Il y a une loi qui a 20 ans. Et puis là, tout s'est ouvert parce qu'ils connaissent bien les médiateurs et tout, ils connaissent bien les prisons. Puis j'ai pu faire le film là-bas. Mais donc, pour dire, donc c'était aussi en Belgique. Donc, je n'ai pas dit tout ça pour dire, j'étais aussi tourné en Belgique. Mm-hmm. Mais les choses, des fois, un film en entraîne un autre pour parler du choix, souvent. Et puis, il faut être fluide. Là, je voulais faire à Bellechasse et puis au canton de Fribourg. Et puis, j'ai fini dans 5 prisons en Belgique, quoi. Donc, voilà, les choses évoluent. Et puis, c'est comme la respiration. Donc, il faut savoir prendre, aussi lâcher. Et puis, moi, j'aime bien ça. C'est un apprentissage, en fait.
Donc, vous tournez, donc, on l'a compris, beaucoup autour de l'humain. Donc, des expériences humaines. Quel fil rouge relie l'ensemble de vos œuvres, en fait,
documentaires? Ce que je disais avant, je crois que c'est la transformation humaine.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas découvert tout seul, en fait. J'ai lu, parce qu'on a quand même chaque fois beaucoup de presse et tout, enfin beaucoup, plus ou moins beaucoup, ça dépend des films, mais disons, on est condamné à ça, à se faire connaître un peu. Et puis, il me semble que c'est quand même ce qui est récurrent dans les films que j'ai faits. C'est de voir quelqu'un qui part d'un point A et puis qui arrive à un point B, puis qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Alors des fois, c'est compliqué, parce que par exemple, les hommes, ils sont dans le désert, parce que l'idée du souffle du désert, il est venu après, parce que on avait de la peine à définir qu'est-ce qu'ils ont réellement appris, parce qu'ils vivent 2 semaines et demie, mais à fond, avec un psy, et c'est très, très intense. À la fin, ils sont sur une montagne et ils crient au désert. Il y a 20-30 km de désert devant eux. Ce qu'ils attendent de ce qu'ils viennent de vivre, leur souhait, quoi. Ils le crient pour l'ancrer, quoi. Mais réellement, qu'est-ce qu'ils ont vraiment appris? Alors, nous, on a fini en disant, on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment appris, mais on espère qu'ils vont retrouver le souffle repris au désert. Ouais. Donc, c'est le souffle du désert, c'est ça. C'est le souffle, parce qu'il y a une tempête de sable au milieu. Donc, c'est le souffle vraiment physique. Alors, ça dépote, hein, je peux te dire. Okay. Mais, non, vraiment, hein, c'est la chèche. T'as des yeux même protégés, partout, quoi, dans le slip, dans les yeux, partout. Les oreilles, vraiment, c'est quelque chose, hein, de vivre une vraie tempête de sable pendant plusieurs heures. mais il y a aussi le souffle donc intérieur en fait. Donc c'était assez bien vu. C'est pas moi qui ai trouvé, c'est un scénariste. Mais j'ai collaboré avec lui, mais voilà.
Et une question aussi, vu que vous travaillez donc avec l'humain, êtes-vous accompagné dans votre staff de psychologues, de psychiatres ou c'est pas forcément nécessaire de...
Non, mais bon, le souffle du désert, c'était avec un psychiatre qui est un peu aussi particulier, qui a un intérêt pour le chamanisme, pour différentes choses, mais il est très reconnu. Hein. Mm-hmm. Et donc moi, je filmais à la fois son travail... Et puis à la fois, je rencontre les effets de son travail, surtout. Donc en étant avec ces hommes qui venaient de 4 pays francophones, en fait. Il y avait le Québec, la Belgique, la France et la Suisse. Après, il y avait un psy, puisqu'il est dans le film, quoi. Après, il y a, avec la justice restaurative, là, il y avait des médiateurs. Donc c'est eux qui gèrent le cadre de ces rencontres. Donc ils sont formés pour ça. Puis ils veulent absolument que ce soit hors du cadre thérapeutique, justement. Donc l'idée, c'était plutôt, on était confronté à des psys qui hésitaient, des prisons qui hésitaient à ce qu'on puisse faire ces programmes. Donc c'était plutôt ça, le problème. Donc c'est à chaque fois différent. Mais disons, si j'ai besoin de soutien, ouais, je vais aller voir des gens. Mm-hmm. Et pas forcément des psys. Puis j'ai en plus mon ex qui est psy. Donc okay. Je peux aller l'appeler, c'est reconnu, donc je peux aller l'appeler si j'ai des questions. Quoi.
Voilà.
Mais disons que c'est bien d'être conseillé, ça c'est hyper important, c'est un travail collectif. Donc c'est toujours comme ça que je commence en fait, j'aurais pu d'ailleurs commencer comme ça cette fois. Mm-hmm. Mais donc c'est bien que tout le monde vienne quand on a une première, un festival comme ça, que de présenter les gens, c'est vraiment collectif. Quoi.
Mm. Très intéressant. Pour conclure, donc j'en déduis que votre futur projet se nomme le projet des neiges éternelles pour 2020.
Neiges éternelles.
Voilà, ouais, tout à fait.
Donc c'est un projet qui.
Ouais. Puis, justement, je voulais volontiers que vous nous fassiez un aperçu en fait de ce projet.
En gros, moi, je suis intéressé par la spiritualité de ces pays avec. Il y a un mélange syncrétiste de Tibétains, mais il y a ceux qui sont venus, les Sherpas qui sont venus il y a plusieurs siècles. Ils se sont investis ce qu'on appelle le syncrétisme. Ils sont mélangés avec la culture animiste, en fait, chamanique. Donc il y a une espèce de mélange comme ça. Et puis, il y a donc des divinités dans les arbres, mais dans les montagnes aussi. Et puis il y a le surtourisme, le tourisme en tout cas. Qui lui a un autre agenda, quoi. Puis j'ai essayé de comprendre ces deux choses. Donc, on fait des petites cérémonies au camp de base d'Everest avec le baudrier. Puis il y a les touristes qui sont là, c'est des alpinistes. Mais est-ce qu'il y a des touristes, des alpinistes? Je me questionne là-dessus. Et qui sont là, qui comprennent pas vraiment grand-chose. Mais il y a différents degrés, je veux pas juger ça. Puis en plus, c'est nous qui avons amené tout ça. Hein.
Ouais.
C'est pas eux. Il y a un Sherpa dans le film qui nous dit si vous n'étiez pas venus, soi-disant occidentaux, nous, on ne serait pas allés au sommet. Donc, voilà. Donc, et on montre qu'on est relié avec ces gens-là parce qu'on a des archives de l'expédition suisse de 52 à l'Everest au début du film. On voit qu'on était il y avait un aspect très explorateur à l'époque, mais aussi un aspect assez colonialiste. 5 tonnes de matériel, 200 coulis, ils ne les appelaient pas porteurs à l'époque. Ça venait des Anglais, ça s'appelait les coulis.
Et voilà.
Donc, c'est une exclusivité, c'est la première fois que je parle de ce film.
Merci pour le scoop, c'est très gentil. En tout cas, merci à vous, François Keller. On se réjouit de découvrir votre film, donc Neiges éternelles.
Il faudra être patient, hein. C'est en fin 2026.
Ah oui. Oh, mais on devient patient avec tous les films et tout ça maintenant. Ils nous font bien attendre. Donc on va poursuivre avec une musique de Soleil Bleu, de Bleu Soleil et Louisa.
Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Et étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands, je marchais sans fin. Je veux vendre l'horizon, j'entends les montagnes, les étoiles m'attendent.
Nous allons venir vers vous, Robin Lauretan, et nous vous écoutons.
Il n'y a personne dans la salle. Elle est vide, sombre, abandonnée, et seule la poussière donne forme à quelques faisceaux lumineux qui traversent l'espace vieilli de ce théâtre. Il n'y a aucun bruit, ni venant de dedans, ni venant de dehors. La salle est ainsi depuis un temps incertain et le restera encore un certain temps. Depuis les coulisses, côté cour, un tapis fait d'une matière réfléchissante entre en glissant sur le sol. Côté cour est un terme théâtral. Il permet de se repérer sur scène et de ne pas se perdre. Il correspond au côté droit pour le public. S'il n'y a pas de public, elle correspond tout de même au côté droit. Un miroir est fixé à la route sur toute sa longueur, si bien que si quelqu'un était dans le public, il ne pourrait plus voir l'entièreté du plateau. Il ne percevrait qu'un bout du plancher de l'avant-scène, le tapis réfléchissant et ce mur en miroir et sa réflexion. Lui, dans une salle de théâtre, légèrement éclairée par la lumière de l'extérieur. Un temps passe. Un temps passe forcément. Personne ne le remet en question. C'est inéluctable. Un temps passe. Quelqu'un et quelque chose tombent du plafond et s'écrasent derrière le mur en miroir. Nommons-le personnage A. Ne nommons pas tout de suite le quelque chose. Si quelqu'un d'autre était derrière le mur, il aurait pu voir que personnage A a atterri sur un matériau plus ou moins mou qui était sur scène. C'est la seule possibilité. S'il y avait une personne dans le public, elle n'aurait pas pu le voir. Elle entendrait peut-être que personnage A se relève, qu'il marche un peu. Elle verrait sûrement bouger les rideaux du théâtre, touchés hypothétiquement par les mains de personnage A derrière le miroir. Un rideau bouge plus que les autres. Dès que le rideau arrête d'onduler, personnage A entre en avocène, côté court, devant le miroir. Un instant si bref s'est écoulé qu'il n'a pas pu physiquement parcourir la distance entre le rideau bougé et l'avant-scène. S'il y avait une personne dans le public, elle serait certainement très contente de voir qu'une personne autre qu'elle se trouve dans ce théâtre abandonné. S'il y avait une personne derrière le mur de miroir, elle se trouverait maintenant seule. Personnage A avance à reculons en regardant le rideau. Sa main tient le quelque chose. Appelons-le attaché caisse. Il est en cuir brun clair, renforcé par des coins métalliques couleur laiton. Personnage A ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Il est encore en train de reculer quand il baisse la tête, sursaute, crie et se colle contre le mur en respirant bruyamment. Il a l'air affolé, il en a lâché son attaché-caisse. Il regarde en bas et sa tête se lève, les yeux écarquillés. Il déglutit et hyperventile. Il observe à droite, à gauche, ferme ses paupières. Il prend de l'air par le nez et le recrache par la bouche. S'il y avait une personne dans le public, elle n'aurait pas bougé. On ne bouge plus dans un théâtre dès que quelqu'un est sur scène. C'est comme ça, c'est la règle. Même si la personne sur scène vous le dit, vous ne bougez pas. S'il y avait une personne dans le public qui ne connaissait pas les conventions, elle se serait peut-être levée, avancée même. Soit, le cours des choses ne changera pas.
Merci beaucoup, Robin, de cet extrait ou... C'est un extrait.
Un extrait, oui, un texte plus long.
Un texte que vous avez écrit il y a longtemps ?
Non, très récemment. Je l'ai fini en juin. Mm-hmm. En fait, il s'agit d'un texte que j'ai rendu dans mon école d'écriture. Mm-hmm. Chaque semestre, on doit rendre justement un gros projet. Et ça, c'était le projet de ce semestre de printemps.
D'accord. J'aimerais vous demander de vous présenter à nous.
Oui, volontiers. Donc, Robin Lauretan, là, tout de suite, actuellement, je suis à Pavillon Nomade parce que je fais mon service civil au quartier culturel de Malévaux. J'effectue une dizaine de semaines de service civil. Et en dehors de ça, en temps normal, je suis encore aux études dans une école qui s'appelle l'Institut littéraire suisse. Et où je vais effectuer ma troisième année à la rentrée, en septembre.
Est-ce que vous écrivez depuis l'enfance ?
Étonnamment, non. Non, ça m'est venu plutôt vers l'adolescence. J'avais un groupe de musique où j'étais le chanteur, et j'ai commencé à ce moment-là à écrire des chansons, à écrire une sorte de poème. C'est venu à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui vous inspire dans l'écriture ?
Je crois que c'est beaucoup des situations décalées. Je crois que c'est ça qui m'intrigue. Et avec souvent des personnages un peu loufoques ou hauts en couleur ces derniers temps, c'est surtout ça. Et pas mal d'auteurs et d'autrices qui m'inspirent et dont je m'inspire.
Eliane ?
Vous avez dit avant que vous suiviez des cours.
Oui.
Et ça vous donnera quoi comme papier à la fin de ces cours ?
Alors, c'est un bachelor en art.
D'accord.
Un bachelor, il y a un terme technique, mais en général, les gens, les personnes qui sortent de cette école se présentent comme écrivain ou écrivaine.
D'accord.
François ?
Oui, on parle de la... Mais c'est assez décrit, l'angoisse de la passe blanche, en fait. Mmh. Est-ce que vous arrivez à vous identifier à ça ? Ou bien est-ce que c'est... Ça donne aussi un peu l'idée de l'écrivain un peu maudit qui cherche son inspiration. Ça me paraît un peu désuet, en fait, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Je crois que l'école que je fais a un bon remède à ça. Il nous inculque vraiment d'écrire beaucoup, tout le temps, sur tout et n'importe quoi, et de ne pas se fier à la qualité au début. Vraiment de pratiquer, de prendre la première idée et que c'est vraiment en pratiquant que les idées viennent. Donc finalement, la page blanche, en suivant cette école, je l'ai assez peu. Je commence directement sans me poser la question de la pertinence du sujet que j'écris. Ouais. En général, pas de page blanche.
Denis ?
Oui. Vous chantez aussi ? Vous faites de la musique ?
Ouais, j'en fais un peu, mais donc pas dans une école, vraiment, en amateur. Ouais.
Quel genre quoi.
Personnel, quoi. Personnellement, quoi.
Oui, exactement, personnellement.
Ça va, parce que moi, j'étais producteur de la musique chrétienne.
Ah oui.
J'ai 9 albums à mon répertoire, quoi.
Ah, fantastique, musique chrétienne. Oui. Alors, on est sur un... pas sur quelque chose de religieux, de mon côté. On est plutôt sur du rock, ce qui est un petit peu l'antithèse de la religion à une certaine époque.
Vous auriez un refrain, vous pourriez nous dire, sans forcément le chanter, mais bon, en plus, ouais, c'est un plus, chanter.
Alors, en fait, actuellement, je fais de la musique, mais je ne chante pas. C'était quand j'étais petit que je faisais des chansons. Mais juste après, j'ai des poèmes que je pourrais vous lire, qui sont censés venir un peu plus tard, si ça vous va.
Et dans vos écrits, en fait, vous avez un fil d'Ariane, un fil rouge, quelque chose qui, où en fait, vous sautez volontairement et avec plaisir du coq à l'âne.
Ouais, on va dire ça. En fait, j'ai vraiment pris, pour l'instant, je le prends encore, cette école vraiment comme une chance, mm-hmm. de pouvoir se consacrer 100% à mon écriture. Et il y a, en fait, c'est une école où se trouvent beaucoup d'auteurs et d'autrices suisses romandes et suisses allemands aussi. Donc j'essaye de toucher à tout. J'ai commencé ma première année par écrire des nouvelles parce qu'il me semblait que c'était le format le plus adapté pour essayer d'écrire un petit peu des choses très larges. Cette année qui vient de s'écouler, j'étais avec une poétesse qui me suivait. Donc j'ai commencé à écrire des poèmes avec elle. Mais ce que j'aimerais faire, surtout pour la troisième année et plus tard, ce serait me diriger vers le théâtre. Donc finalement, pour l'instant, il n'y a pas une ligne directrice. Je touche un peu à tout.
Eliane ?
Robin, quand vous écrivez c'est autobiographique ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Enfin... Je dirais que l'idée de base, elle est toujours autobiographique. C'est toujours quelque chose que j'ai remarqué, quelque chose que j'ai vu ou que j'ai vécu. Mais souvent, ça part souvent dans l'absurde. Et ce ne sont pas des situations qui sont réellement arrivées. Mais pour moi, je pense pour beaucoup d'artistes aussi, les idées ne nous viennent pas comme ça. Et ça vient forcément de quelque part qu'on a lu, vécu, entendu.
Et donc, vous allez vous orienter vers le théâtre, donc plutôt scénaristique, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est écrivain voilà. de théâtre.
Est-ce que vous avez des références
dans le théâtre, je crois pas. Enfin, je suis en train vraiment de lire le maximum d'auteurs et d'autrices de théâtre, mais j'ai personne qui sort vraiment du lot. Je dirais que celui qui m'a le plus troublé, c'est Beckett. Samuel Beckett, avec son théâtre de l'absurde, qui, je trouve, sort vraiment des codes, surtout à son époque. Ça a été un sacré bouleversement. Mais personne d'autre, sinon, sort pour moi, en tout cas.
Alors, je vous invite à nous lire un poème.
Volontiers. La porte semble grincer avant même que l'on touche à sa poignée et nous accueille avec une odeur froide et humide. Le vin s'y transforme en vinaigre, patientant dans ces bouteilles vertes dont la poussière accumulée par les années brouille ces dates si importantes aux yeux de on ne sait plus qui. On y entrepose les pommes, celles de terre, celles pour les jus, celles pour les tartes, celles à croquer. Une prison de bois empêche ses choux de devenir mes choux, les confitures de se faire la malle et les pommes de terre de se carapatater. Cette séparation permettait aussi d'évaluer les limites de nos courages enfantins. Se faire enfermer, être relégué au rang de conserve, ne pas saisir l'obscurité, cerner l'absence de lumière, de repères. Mais le tortionnaire ne tardait jamais à nous libérer, prenant au passage une brique de lait dans la réserve de grand-mère, dont le goût de son chocolat chaud hante encore tous ceux que je bois depuis. Alors, je pique une pomme à croquer, fais crisser derrière moi les gonds et les mécaniques et laisse les souvenirs se conserver comme ils peuvent, entre la mousse, les cajots et les congélos.
Bravo, merci beaucoup. Alors, nous avons aujourd'hui Joël qui aimerait rendre hommage à toutes les dames de ménage qui œuvrent 7 jours sur 7 pour leur soutien et pour maintenir le site Picobello avec la chanson « Mal done » des Zouk Machine. Donc, cher Robin, depuis que vous êtes ici sur le quartier culturel, sur le site de Malévo, j'aimerais savoir, est-ce que ça vous inspire ?
Je crois qu'il y a rarement des choses qui m'inspirent sur le moment. Je crois que ça vient plus tard. Jamais une illumination en me disant... Ah, c'est exactement ça qu'il faut que j'écrive, il faut que j'écrive cette situation-là. Je crois que je suis plus dans l'instant et puis j'y repense plus tard.
Mais vous prenez des notes du coup de situations incongrues ou de choses comme ça ou vous arrivez à vous souvenir de cette situation?
Je crois que je m'en souviens. Mmh. J'aime bien parce que ça fait le tri en général, de se rappeler plus tard vraiment des choses importantes. Mais j'ai quand même un petit calepin ou une note sur mon téléphone, toujours, au cas où ça arrive de temps en temps qu'il y a quelque chose qui pop up d'un coup.
Et donc, vous vivez sur place, hein, vous avez une chambre au
quartier culturel. C'est ça, actuellement. Voilà.
Et le fait de vivre au sein d'un hôpital psychiatrique, qu'est-ce que ça vous procure ?
Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je viens en fait en tant que civiliste ici au quartier culturel. J'étais déjà venu en 2018, et ça s'était très bien passé. J'avais fait 6 mois une première affectation ici, et donc c'est avec plaisir que je reviens actuellement. Donc pour l'instant, c'est presque comme revenir dans une sorte de maison. Je me suis très bien senti. Je me rappelle que la première fois, j'étais plus jeune, j'avais 21 ans, et je venais avec une certaine appréhension, forcément qu'on vient avec tout son lot de clichés, de films qu'on a vus, et ça s'est très vite dissipé de vivre dans cette maison, finalement en une ou deux nuits. Il y a tellement on est tellement bien accueillis dans cet espace-là, on fait des rencontres fantastiques qui cassent facilement tous les clichés, tous les tabous qu'on a là autour. On s'y sent vraiment très bien en très peu de temps, finalement.
Et en tant que civiliste, je sais qu'il y a différents civilistes qui viennent avec différentes fonctions. Votre fonction, donc, pour ce séjour, c'est...
J'ai l'impression un peu bras bonus. C'est-à-dire, c'est en général... Une semaine type, c'est lundi et mardi matin, je donne un coup de main au jardin avec nos deux super jardiniers, Alex et Guillaume. L'après-midi, lundi et mardi après-midi, je donne un coup de main à la cuisine. Mercredi, je fais le marché de Montet. Jeudi, je donne un coup de main à Lémy et Nicolas pour la table d'hôtes. Et le vendredi, je fais du ménage et le karaoké. Donc, c'est vraiment très diversifié.
En effet, donc oui, Eliane.
Vous dormez quand ?
En général, le soir.
Ah, d'accord.
Je suis plutôt un oiseau de nuit. Je m'endors tard, en fait.
Et vous êtes inspiré plutôt la nuit pour écrire ?
J'écris plus souvent la nuit. J'essaye de me forcer à écrire le matin vraiment comme exercice. Mais les choses que je trouve qui me tiennent à cœur d'écrire, je les écris plutôt le soir. Ouais.
Et depuis l'expérience de 2018, avez-vous trouvé des changements au quartier culturel ?
Énormément, que du positif. Il n'y avait que la buvette en 2018, vraiment avec des anciens patients et anciennes patientes. Il n'y avait pas encore tous les jardins. Il y avait moins de chambres disponibles, c'était une plus petite équipe. Donc je me souviens beaucoup de ces petits ces premières idées, ces bourgeons qu'on parlait justement, Gabriel Binder parlait justement de peut-être prendre les serres à ce moment-là, mais tout était hypothétique et finalement tout s'est très très bien passé et va vraiment vers des beaux projets.
Magnifique. Encore une question. Si c'est à refaire,
je referais exactement pareil. Je pense oui, c'est pour ça aussi que je suis revenu au quartier culturel. C'est parce que de toutes les affectations que j'ai pu faire au service civil, c'est de loin la meilleure.
D'accord. Nous allons maintenant écouter encore une œuvre de votre part, donc un dernier poème.
Nos escaliers, tu sais les descendre, sur un matelas, sur les fesses, sur le côté pour prendre le virage plus rapidement, pour venir déjeuner avec moi. Tu sais les descendre avec 2 grammes dans le sang, avec mon repas de midi dans les mains, avec le poids de la journée sur les épaules, avec 42 fièvres, pour me rendre service. Tu sais les descendre sans te rappeler pourquoi, sans aucun habit, sans les mains, pour m'inviter à dormir. Tu sais les descendre les yeux fermés, à l'envers, sans t'en rendre compte, et une fois, je t'ai même vu les monter. Mais tu n'as plus su comment les descendre lorsque j'allais m'en aller.
Merci. Merci beaucoup et bravo. Mais ça a l'air assez autobiographique quand même, oui. Je dois dire, ce poème. Il y a quand même quelque chose d'inspirant.
Ouais, c'est pour l'exercice de ces poèmes, c'est quelque chose que j'ai très peu écrit, enfin, sous une forme, on va dire, poétique très moderne. Et on m'a conseillé de commencer vraiment avec un sujet que je connaissais bien. J'ai choisi ma maison d'enfance. Ah. Mais je n'ai pas vécu toutes ces situations dans les escaliers.
Alors écoutez, je vous remercie. Après ces moments culturellement agréables, je me dois de vous annoncer que l'émission touche à sa fin. Nous allons, dans la douceur de cet après-midi, vous annoncer que nous nous redonnons rendez-vous jeudi prochain dès 15h30 et ce jusqu'à 16h30 pour nous retrouver et passer un moment agréable tous ensemble. Je remercie tous les participants, Eliane, Mathéo, François, Isabelle, Denis, Hugo qui n'est plus là, puisse. Et puis notre cher Robin, voilà, avec tous ses noms. Et ouais, vraiment une spéciale dédicace à nos deux artistes d'aujourd'hui qui nous ont amenés, qui nous ont fait voyager dans leurs univers très agréables. Alors, je remercie aussi notre magicien des ondes, Julien. Et nous allons nous quitter avec un morceau de System of a Down qui se nomme Toxicity.
City of our city.